plateforme. Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue, bon début de semaine. À suivre dans 10 minutes vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes vos pronostics. Qui sera sacré meilleur joueur africain de l'année? On en parle à quelques heures de la cérémonie de la Confédération africaine de football. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. À la une, la situation dramatique à Mayotte où 100 soignants de la réserve sanitaire vont être envoyés très rapidement. L'hôpital de l'archipel est très endommagé et les centres médicaux inopérants. Le président français Emmanuel Macron tiendra une réunion de crise ce soir. Il a promis d'agir pour les Mahorais après le passage du cyclone Chido. Le vent qui a soufflé jusqu'à 230 km/h ce week-end a par endroits tout emporté. Les morts pourraient se compter par milliers. À la une également, l'Union européenne qui envoie à son tour un haut représentant à Damas pour rencontrer les nouveaux dirigeants syriens. Damas, où comme dans tout le pays, les écoles sont à nouveau ouvertes un peu plus d'une semaine après la chute de Bachar al-Assad. À l'inverse, en Iran, nous le verrons, des pénuries d'énergie poussent les autorités à fermer les établissements scolaires. À l'actualité africaine également à la une et pas de discussion directe avec les rebelles du M23. Kinshasa tient sa ligne rouge. Le processus de Luanda a du plomb dans l'aile après l'annulation hier de la rencontre prévue entre les présidents rwandais et congolais. Du personnel et du matériel de secours, mais aussi de l'eau et des vivres. Mayotte manque de tout. Après le passage ce week-end du cyclone Chido, le plus violent qu'a connu l'archipel depuis 90 ans, l'activité du pont aérien et maritime mise en place depuis lundi avec la Réunion va être intensifiée ce lundi. Il faut dire que l'hôpital de Mayotte est très endommagé et les centres médicaux inopérants. C'est ce que regrette ce matin la ministre de la Santé Geneviève Darrieussecq. Selon un bilan encore très provisoire, hier soir au moins 14 morts et près de 250 blessés ont été recensés. Mais les autorités à Mayotte s'attendent à compter les morts par centaines ou même par milliers, de quoi renforcer l'angoisse des familles laissées sans nouvelles par des proches sur l'archipel. Le reportage à Marseille de Sophie Bourlet aux côtés de la diaspora comorienne.
Au local de la radio associative Radio Galère à Marseille, la communauté comorienne s'échange des nouvelles de l'archipel. Depuis hier, à 9h du matin, toute communication avec Mayotte est devenue impossible. Madi Zerari est née à Mayotte et vit à Marseille depuis 30 ans.
Mais on est abattu, on est inquiet. C'est surtout des parents que moi, personnellement, je sais que j'avais des parents qui avaient des logements de fortune. Et c'est là aussi, c'est ça le plus inquiétant.
Sur les images amateurs qui leur sont parvenues via des contacts aux Comores, les amas de tôle et le seul hôpital de l'île dévasté leur font craindre le pire. Houssène Hamzi Hamadi s'inquiète, lui, des personnes en situation irrégulière qui pourraient avoir peur de rejoindre les abris d'urgence ou les hôpitaux. Pourtant, il ne se laisse pas abattre.
Je me sens vraiment très triste, mais il faut aussi être solidaire avec les frères et sœurs, que ce soit qui sont à Mayotte ou qui sont dans les autres îles. D'ici quelques jours, on va commencer à mettre en place des moyens d'aide pour arriver en aide, que ce soit dans l'ensemble des îles. Je pense qu'il y aura des initiatives à partir de demain qui vont se mettre en place.
Le préfet de l'archipel, de son côté, s'attend certainement à plusieurs centaines de morts. Sophie Bourlet, Marseille. RFI.
Et même peut-être un millier, voire quelques milliers de morts, s'est ravisé le préfet de Mayotte. Un décompte des morts exhaustifs semble impossible, notamment car la population clandestine du territoire dépasse les 100 000 personnes. Emmanuel Macron a lui promis ce matin d'agir pour les Mahorais. Il présidera une réunion au centre de crise aujourd'hui à 18h, heure de Paris. S'il reste attentif à la situation à Mayotte, François Bayrou entame lui ses consultations en vue de former un gouvernement. Le nouveau Premier ministre français doit recevoir Jordan Bardella et Marine Le Pen dans les prochaines minutes. François Bayrou qui a choisi de s'entretenir avec les représentants des forces politiques selon leur poids numérique à l'Assemblée nationale. La France insoumise a pour l'heure refusé de rencontrer le Premier ministre français. Une mission diplomatique française se rendra demain, mardi, en Syrie. Une première et ce depuis depuis 12 ans, alors qu'on apprend ce matin que de son côté, l'Union européenne a convoqué un conseil réunissant les ministres des Affaires étrangères de ses 27 États membres. L'UE qui va envoyer à son tour un haut représentant à Damas pour rencontrer les nouveaux dirigeants syriens. La Syrie, où les écoles ont rouvert hier, une semaine après la chute de Bachar al-Assad. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans un lycée de la ville d'Homs. Reportage signé Muriel Paradon et Boris Vichit.
C'est une rentrée en fanfare dans le lycée de Khulnata à Homs. Les élèves, toutes des filles, célèbrent la chute de Bachar al-Assad. Agel, 16 ans, espère que le temps de la propagande à l'école est enfin terminé.
On étudiait l'histoire du parti Baath et de Bachar el-Assad, que c'était un bon président qui nous aidait. Nous savions que c'était un tissu de mensonges qu'il tuait les gens. Et maintenant, on va pouvoir le dire en public.
Mohamed Rajoub est professeur de littérature arabe. Lui souhaite pouvoir enseigner librement à l'avenir sans avoir peur d'être dénoncé et arrêté.
J'ai été jeté en prison deux fois par le régime Assad. Un de mes collègues qui travaillait ici avait écrit un rapport avec de fausses accusations sur moi.
Il est trop tôt pour dire si les programmes scolaires vont changer avec le nouveau pouvoir et de quelle manière. Mais pour Rafa, professeur de français, l'éducation devrait permettre de rassembler tous les Syriens.
Il faut travailler ensemble, il faut travailler bien, il faut construire notre pays. Une nouvelle Syrie, c'est très bien.
Une nouvelle Syrie qui devra se construire avec les nouvelles générations. Muriel Paradon, Boris Vichit, Homs, RFI.
RFI, il est 9h passé de 6 minutes à Luanda où la rencontre prévue hier entre les présidents rwandais et congolais n'a finalement pas eu lieu. Un accord de paix dans l'est de la RDC était pourtant sur la table, mais Paul Kagame n'a finalement pas fait le déplacement dans la capitale angolaise. Correspondance à Kinshasa de Paulina Zidi.
On constate que la tripartite n'aura pas lieu puisqu'une partie n'est pas là, confiée avant l'annonce officielle une source congolaise. Une demi-surprise puisque les discussions, tard dans la nuit de samedi à dimanche entre les ministres, avait été infructueuse. Félix Tshisekedi a néanmoins pris son avion, sachant qu'il n'y aurait probablement pas d'accord. Nous étions invités, nous sommes allés au bout de notre engagement, justifié un membre de la délégation. Le point d'achoppement, c'est la mention d'un dialogue direct entre la RDC et le M23 que le Rwanda voulait faire inscrire dans l'accord. C'est sorti du chapeau, explique une source diplomatique proche de Kinshasa. Une exigence rejetée par la délégation congolaise. C'est en effet la ligne rouge de Kinshasa depuis plus de 2 ans, pas de négociation directe avec les rebelles et de rappeler que le M23 s'est en plus auto-exclu du processus de Nairobi en prenant les armes. Pour la porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, le Rwanda a torpillé le processus de paix. Difficile en effet aujourd'hui de savoir si le processus de Luanda pourra surmonter cet échec. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
L'Ukraine, victime cette nuit d'une attaque russe avec 49 drones. Kiev qui annonce par ailleurs ce matin qu'au moins 30 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés dans la région de Koursk. De son côté, la Chine dit espérer une relation stable avec la Corée du Sud après la motion de censure et de destitution du président. Le président épinglé par les députés sud-coréens, la Cour constitutionnelle a lancé de son côté il y a quelques heures l'examen de cette affaire. Je vous le disais en titre, l'Iran paralysé à cause de pénurie de gaz et d'électricité. Les écoles sont fermées, les services publics ne sont plus garantis. Correspondance à Téhéran de Siavosh Ghazi.
Depuis une dizaine de jours, des coupures de courant interviennent régulièrement, ce qui touche les habitations, mais aussi l'industrie à travers le pays, et ce d'autant plus que le pays est confronté à un manque de gaz naturel pour le chauffage, mais aussi pour alimenter les centrales électriques. Une situation d'autant plus étonnante que l'Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz naturel au monde et fait partie des grands producteurs de pétrole au sein de l'OPEP. Le président Pezeshkian a demandé à la population de baisser de 2 degrés la température dans les maisons pour faire des économies. Les écoles, les administrations et les banques ont été fermées dimanche dans la moitié des provinces du pays et cette fermeture va continuer encore lundi. Les experts prédisent une aggravation de la situation l'année prochaine à cause d'un nombre insuffisant de centrales, des barrages non remplis à cause de la sécheresse et une production de gaz insuffisante alors que la population a l'habitude de surchauffer les appartements. Une situation d'autant plus difficile que le gouvernement envisage d'augmenter également le prix de l'essence, ce qui pourrait alimenter encore le mécontentement de la population. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Un mot de football pour refermer ce journal avec ce résultat en Ligue 1. Le PSG a dominé hier l'OL à l'occasion du choc de la 15e journée. 3-1, score final. RFI, 9h passées de 10 minutes ici à Paris. La suite, c'est évidemment Appel sur l'actualité avec vous, Juan Gomez.
Et les auditeurs de RFI, merci Simon.